Chers amis, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître de Paul aux Philippiens. On arrive à la fin, donc on va terminer cette étude qu'on a entreprise depuis plusieurs mois déjà, l'Épître aux Philippiens, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Lisons la parole de Dieu. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis pour la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche le fruit qui en abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens, recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous prions. Seigneur, nous te demandons de nous conduire dans ta parole, par ton esprit, d'illuminer nos cœurs afin que nous saisissions ta parole et de nous donner des cœurs disponibles, disposés pour la recevoir et la mettre en pratique par la puissance de ton Esprit Saint qui agit en nous et pour la gloire de ton nom. Amen. Cette section est probablement la raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit cette lettre à l'épître aux Philippiens. Si vous regardez en Philippiens chapitre 2, verset 25, Philippiens 2, verset 25, l'apôtre Paul dit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. » Donc on voit ici que Épaphrodite, envoyé par l'église de Philippe, avec un don financier, a apporté à Paul qui se trouvait en prison à Rome. Et probablement l'apôtre Paul écrit cette lettre pour remercier les Philippiens pour ce don. Mais vous remarquerez qu'il ne le fait pas dès le début de la lettre. C'est maintenant qu'on arrive au chapitre 2, il évoque le fait que Épaphrodite lui a remis un don financier de la part de l'Église pour pouvoir à ses besoins. Et puis, c'est à la fin de la lettre qu'il vient, on pourrait dire quelque part, manifester sa reconnaissance à l'égard des Philippiens. Mais quand on lit bien, on voit que Paul ne dit pas merci, simplement. Il ne se contente pas de dire merci, comme peut-être nous l'aurions fait avec quelqu'un qui nous fait un don. Je te remercie beaucoup, ça me touche. Voilà, je rends grâce au Seigneur pour cela. Non, il ne fait pas ainsi. Et poussé par l'Esprit de Dieu, bien, il va saisir l'occasion pour enseigner des choses très importantes concernant le fait de donner et de recevoir. Si vous regardez au verset 15, c'est ce qu'il dit. Il dit « Aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. » Donc c'est un petit peu ce qu'il s'apprête à faire ici. Et la question de l'argent et de son utilisation, des dons, des biens matériels, des offrandes, est une question qui est relativement épineuse et que l'on a parfois du mal souvent à aborder. Il y a tellement eu d'abus qui sont faits et que parfois on pense régler le problème en s'auto-censurant, en disant bon, « moi je ne parle pas ». J'ai vu des gens qui sont venus parfois ici et qui ont dit « Ah moi, j'étais dans une église, mais je suis parti parce que là, voilà, on parle d'argent. » Et donc, dès qu'on parle d'argent, on dit que ce n'est pas bon. Mais la parole de Dieu parle de l'argent. Et il est bien de parler, il est bon de parler de ce, de traiter ce que la parole de Dieu met en avant. Il faut remarquer que l'Écriture, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, parle même beaucoup de l'argent et du rapport surtout qu'on entretient avec l'argent ou avec plus généralement les biens matériels. Et je lisais dans un sermon un commentateur qui disait, qui soulignait, alors je n'ai pas vérifié, mais il soulignait qu'il y a à peu près 500 versets concernant directement la prière dans la Bible, 500 versets à peu près qui nous entretiennent de la foi directement, mais il y a plus de 2000 qui concernent l'argent et les biens. Et si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir que Jésus a parlé beaucoup aussi de l'argent. Il y a eu beaucoup de paraboles, à peu près la moitié, je pense, des paraboles qu'il a données, des enseignements, traitaient de cette problématique. Alors, on peut noter que si le rapport à l'argent était au cœur de la piété, hein, des premiers chrétiens qui mettaient, rappelez-vous, tout en commun. Hein. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. C'était la première chose que l'on voit chez les chrétiens nouvellement convertis au début du livre des Actes, dans l'Église primitive. C'était le fait de partager, de mettre l'argent qu'ils avaient en commun. Eh bien, on peut dire que l'argent, c'était aussi le premier problème auquel l'Église a dû faire face. Et l'Église primitive, rappelez-vous, il y a eu un problème de partage de biens matériels. C'était au niveau des veuves, vous voyez, qui recevaient. Il y avait les veuves des hellénistes, et puis la Bible parle des veuves des Hébreux. Ils avaient des problèmes de distribution de biens, de nourriture ou autre, dans cette Église. On a aussi l'histoire d'Ananias et Saphira dans le livre des Actes, hein, c'était un rapport encore avec l'argent, de bien vendu, de partie de la somme cachée, etc. Et donc on voit ici que Satan essayait même de mettre dans l'Église naissante, hein, de la division, en pervertissant les cœurs concernant cette question de l'argent et de son utilisation. Quand on lit les Évangiles, je l'ai dit, on voit que le Seigneur Jésus s'intéresse à l'argent d'une manière importante, en tout cas pour nous, hein, pour notre enseignement. Et dans l'évangile de Marc, vous vous rappelez, il dit que Jésus s'est tenu au fond du temple et puis il regardait comment on mettait de l'argent dans le tronc. Il dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, à côté du tronc, il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Et c'est là qu'il voit les riches qui mettent monnaie sonnante et trébuchante. Hein, et puis après, il voit une pauvre en tout cas, dame qui met une petite pièce, et c'est tout ce qu'elle avait. Et Jésus tire un enseignement de cela, sur la manière avec laquelle on donne, sur ce que l'on donne, sur le niveau même de ce que l'on donne. Et donc si on revient à notre texte ici, on voit bien au verset 15, l'apôtre Paul parle de ce rapport de donner et de recevoir, et rapport dans lequel il était avec l'église de Philippe. Donc, quand il remercie cette église, il va en premier lieu, il ne va pas dire merci, point à la ligne, mais il va parler de lui, il va parler de l'église en même temps, hein, de lui qui reçoit, de l'église qui donne, et puis tout cela en rapport avec Dieu dans sa providence, Dieu dans ses provisions, et puis Dieu dans sa gloire, ainsi vous avez bien lu le passage que nous avons lu. Donc donner et recevoir selon Dieu, c'est ce qu'il va traiter ici. Il dit oui, je suis reconnaissant pour le don que vous m'avez envoyé, mais après il parle de lui en disant qu'il a appris à être content de l'état dans lequel il se trouve. Il dit, c'est comme s'il dit, en fait, je n'ai pas besoin particulièrement de ce don. Cela répond à mes besoins, je suis content de l'avoir reçu, mais je veux que vous sachiez que pour moi, j'ai appris le contentement. Je sais vivre avec et je sais vivre sans. Donc, c'est ce qu'il dit dans le premier sens. Et puis après, il parle aussi de l'Église et de tous les bienfaits qu'a pour cette Église le fait de donner. Et donc, il prend deux aspects de la chose, lui qui reçoit et puis l'Église qui donne. Donc aujourd'hui, nous voulons considérer l'Église qui donne. Et puis, une autre fois, nous allons considérer l'apôtre Paul, particulièrement dans le thème du contentement. Et qu'est-ce que c'est que véritablement pour nous, que doit être pour nous aussi le contentement? Donc, le titre du message ce matin, c'est « Vers une église qui donne ou généreuse à la gloire de Dieu ». Vers une église généreuse à la gloire de Dieu. Premièrement, la générosité, on voit, caractérise l'Église du Seigneur. L'apôtre Paul dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Et Paul dit ici que le don qu'il a reçu de la part de l'Église de Philippe est l'expression du sentiment constant que cette Église a gardé à l'égard de l'apôtre. On comprend donc que cette générosité n'avait pas toujours pu se concrétiser. Il y a un moment, ils n'ont pas pu le faire, mais ils avaient toujours la pensée. Quand l'opportunité était là, eh bien, ils ont saisi l'opportunité pour manifester cette générosité. C'est une église généreuse dès le début. Si nous regardons, l'apôtre Paul dit au verset 15, donc si nous allons considérer ces versets-là plutôt aujourd'hui, le verset 15, il dit « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à deux reprises. » De quoi satisfaire, de quoi pourvoir à mes besoins. Et si on lit dans le chapitre 1 et au verset 5, l'apôtre Paul disait déjà verset 3, déjà on va lire à partir du verset 3, Philippiens 1 et au verset 3, nous lisons, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Si on prend en considération que l'apôtre Paul écrit une lettre pour remercier les Philippiens, entre autres, puis bien sûr il parle de sa joie, la joie qu'il a en Jésus-Christ, mais remercier les Philippiens, on comprend que ce qu'il est en train de dire ici, ce n'est pas simplement qu'ils aiment l'Évangile, etc., mais qu'ils ont une manière particulière de participer à l'Évangile qui consiste à l'assister financièrement. Et ils l'ont fait, dit, depuis le début jusqu'à maintenant. Lorsque l'Église n'était qu'une petite poignée de personnes et que l'apôtre Paul est parti quelques semaines à Thessalonique, c'est ce qu'il dit. Il dit, à Thessalonique, vous m'avez envoyé déjà à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ils l'ont fait au tout début de la vie de l'Église. Ils ont été généreux dès le début. Si vous lisez Actes chapitre 17, on n'aura pas le temps de lire, mais chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18, on a tout le passage de l'apôtre Paul, la fondation de l'église de Philippe, et puis ensuite le passage de Paul à Thessalonique, puis après, la Bible dit qu'il reste deux sabbats à Thessalonique, donc probablement deux semaines, et puis trois semaines, entre deux et trois semaines, après il part à Bérée, et puis il est à chaque fois poursuivi par les Juifs de Thessalonique, et donc il progresse, après il va à Athènes, il reste à Athènes un certain temps, puis après il arrive à Corinthe. Eh bien, il dit que quand il est parti et qu'il est arrivé à Thessalonique, eh bien, même là, il est resté que 15 jours, 3 semaines, peut-être maximum, et l'église de Philippe avait déjà par deux fois manifesté leur générosité en lui envoyant des dons ici. Et quand il arrive à Athènes, par exemple, la Bible dit qu'il attend Timothée et Silas. Il travaille, il fabrique des tentes, il rencontre Aquilas et Priscille à Corinthe. Il fabrique des tentes en semaine et puis le sabbat, il prêche à la synagogue. Et quand Silas et Timothée arrivent de la Macédoine, et la Bible dit qu'ils arrêtent et qu'ils se consacrent totalement à la prédication de la parole. On suppose là qu'il a reçu un don, quelque chose qui lui permet de subvenir à ses besoins financièrement et de se donner entièrement à la prédication de la parole. Ce qui est peut-être souligné quand il écrit plus tard aux Corinthiens, il leur dit « Et lorsque j'étais chez vous, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne, car les frères venus de Macédoine, donc la Macédoine c'est Philippe, Thessalonique, Bérée, et donc il dit « Les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. » En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Il dit, j'ai travaillé quand j'étais chez vous et quand j'étais vraiment dans le besoin, il a trouvé les frères qui sont venus et lui ont apporté du soutien de la Macédoine, donc probablement de l'église de Philippe. Donc dès le début de l'existence de cette assemblée, elle a soutenu financièrement l'œuvre de Dieu. Elle n'a pas dit, on est une jeune église, on n'a pas les moyens de soutenir ici. On ne peut pas faire cela. Il faut qu'on compte sur les grosses méga-churches comme Jérusalem, Antioche. Mais nous, nous sommes un petit troupeau, nous n'avons pas de moyens. Non, l'apôtre souligne le fait qu'au commencement, ils ont été déjà fidèles dans le fait de soutenir. Ils ont soutenu avec ce qu'ils avaient, mais ils ont soutenu. Et deuxième chose, cette église a montré une générosité toujours volontaire et sacrificielle. Si on lit dans 2 Corinthiens, l'église de Philippe était composée de personnes qui venaient d'horizons socio-économiques différents. Il y avait, rappelez-vous, cette dame qui avait probablement été délivrée d'un esprit, d'un mauvais esprit. Il y avait Lydie, bon, qui était une commerçante. Il y avait le geôlier. Et puis il y avait certainement des personnes qui venaient d'horizons différents. Quand on lit l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens pour les encourager à participer correctement à une collecte en faveur de l'église de Jérusalem, eh bien, il donne en exemple la générosité des églises de la Macédoine. En 2 Corinthiens chapitre 8, si vous lisez avec moi, prenez 2 Corinthiens chapitre 8, et nous allons lire quelques versets. 2 Corinthiens chapitre 8. Et c'est intéressant de regarder comment l'apôtre Paul exprime les choses, comment il place, pendant que vous lisez, le fait de donner, de participer financièrement, comment il établit une connexion entre cela et l'évangile et la grâce de Dieu. C'est vraiment très intéressant de considérer cela, important de le considérer. 2 Corinthiens 8, verset 1, il dit « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Et quand on entend ça, on dit, ah, peut-être qu'il y a eu beaucoup de conversions, beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de, des grandes choses théologiques qui se sont passées. Non, la grâce de Dieu dont il parle ici, c'est celle qui se manifeste par la participation des églises de la Macédoine à une collecte. C'est ce qu'il dit, nous vous faisons connaître la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers verset 2, la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part, générosité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Voilà l'exemple qu'il donne ici. C'était une église, des églises, donc particulièrement l'église de Philippe, qui étaient dans la difficulté, dans la persécution. Et donc, souvent, quand les églises étaient persécutées, ça entraînait des difficultés aussi matérielles qui se trouvaient, il dit, ici, à travers la grande épreuve de leur affliction et leur joie débordante et leur pauvreté profonde. C'est-à-dire, il parle de la générosité des pauvres, ici, d'une église pauvre.
Donc ça veut dire que quand elle donne généreusement, elle se sacrifie. C'est à la fois volontaire, il le dit, ils ont donné volontairement, et ils ont donné selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Donc c'est une générosité volontaire et sacrificielle, ici. Donc c'est important de considérer cela. L'église de Philippe n'avait pas beaucoup de moyens. Elle a été généreuse dès le début, mais elle a été d'une manière relativement forte, relativement sacrificielle. Générosité répétée aussi. Hein. L'apôtre Paul dit au verset 14, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Il dit, « Vous le savez, vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis pour la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. » Car vous m'envoyez déjà deux fois à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc on voit ici l'église qui soutient Paul au début, mais la lettre, il l'écrit pour remercier pour un don qu'il vient de recevoir de cette église. 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Parce que quand Paul est à Rome, ça fait déjà 10 années que l'église de Philippe existe. Donc on voit c'est une église qui a soutenu au début, mais qui a soutenu de manière sacrificielle, qui a été généreuse de manière sacrificielle, mais aussi qui a été constamment généreuse. Elle a été fidèle dans le fait de soutenir l'œuvre de Dieu et particulièrement l'apôtre Paul. L'église perd un peu de vue l'apôtre Paul à un moment donné. Hein, parce que quand Paul, le premier verset de chapitre 4 dit, que nous avons lu, hein, l'apôtre Paul souligne ici que l'Église, juste le temps de retrouver Philippiens chez moi, donc il souligne, il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Il y a un moment, ils n'avaient pas l'occasion de le faire. Alors est-ce que c'est parce qu'ils étaient trop pauvres pour le faire? Je ne crois pas, mais c'est peut-être parce qu'ils avaient un peu perdu de vue l'apôtre Paul dans tous ses voyages. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Hein, pour savoir, une petite photo, je suis ici, je suis là, ça va vite maintenant. On perd difficilement les gens de vue. Mais à cette époque, les nouvelles circulaient à la même vitesse que les gens se déplaçaient. Il fallait qu'il y ait des déplacements de personnes pour avoir une nouvelle. Donc vous imaginez bien que si quelqu'un n'était pas revenu de quelque part pour dire Paul il est ici ou Paul il est là, l'Église pouvait perdre de vue l'apôtre Paul. Mais Paul souligne ici que cette église, elle a gardé un sentiment, elle pense toujours faire quelque chose pour lui, mais il lui manque l'opportunité. Et quand elle apprend que Paul est en prison à Rome, alors il dépêche Épaphrodite. Il se dit certainement il a des besoins, parce qu'à Rome, il faut payer le loyer, etc. Les prisonniers devaient payer leur emprisonnement. Et donc, il envoie de quoi pourvoir à ses besoins. Donc, c'est une église qui a montré une générosité, répétée. Cette générosité n'était pas purement ponctuelle, mais ça semble être un engagement qu'elle a pris avec l'apôtre Paul, comme il le dit peut-être, hein, quand il exprime qu'aucune église n'entra en compte avec moi, peut-être qu'ils ont pris un engagement avec lui de le soutenir régulièrement. Et puis, c'est une générosité, pas comment il faudrait le dire, j'ai dit ici, responsable quelque part. Regardez au verset 16, l'apôtre Paul dit, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez à Thessalonique déjà deux fois de quoi pouvoir à mes besoins. Il dit, vous avez été les seuls, vous avez pris pleinement cette responsabilité à me soutenir de cette manière-là. Les autres églises ne l'ont pas fait. Cela souligne, l'apôtre Paul n'est pas en train d'accuser les autres églises. D'accord? Parce que lui, il sait vivre dans la disette et dans l'abondance. D'accord? Donc, il n'est absolument pas en train de le faire. Il est simplement en train de dire que cette Église a rempli pleinement sa responsabilité, même si elle a été seule à le faire. Une petite Église naissante qui décide de soutenir avec ses moyens. Elle n'a pas fait appel à l'extérieur. Elle a rempli pleinement sa responsabilité de soutenir l'apôtre Paul. L'Église ne doit pas chercher, n'est-ce pas, à se limiter dans ce qu'elle peut faire. Mais elle doit faire avec ses moyens, même si elle est toute seule à le faire. C'est sa première responsabilité. Hein, et elle a accompli pleinement cette responsabilité. Elle n'a pas regardé à sa jeunesse, l'église de Philippe. Elle n'a pas compté sur l'église de Jérusalem ou sur l'église d'Antioche. Hein, peut-être qu'étaient les les églises américaines de l'époque, hein, je ne sais pas comment il faudrait dire ça, elle n'a pas dit le grand frère américain va payer, il va envoyer un don, non, elle s'est prise en charge elle-même, et l'apôtre Paul dit, vous avez été les seuls à le faire à mon égard. Il l'a fait de manière généreuse, de manière répétée, de manière sacrificielle, et elle l'a fait dès le commencement. Ça, c'est quelque chose que l'apôtre Paul souligne et que nous devons retenir de cette église. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'il montre aussi que la générosité est un moyen de communion à l'Évangile. Ici. La générosité de l'Église est un moyen de communion à l'Évangile. Au chapitre 1, verset 5, il dit « Je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Au chapitre 4 que nous lisons, versets 14 et 16, il dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part, c'est la même chose, à ma détresse. » Il dit « Vous le savez bien, Philippiens, au commencement de la prédication, lorsque je partis pour la Macédoine, aucune église n'entra en compte. » Et le mot « n'entra en compte », c'est la même chose que, c'est le même mot que « prendre part ». Donc, il dit trois fois la même chose. Chapitre 1, il dit « Vous avez pris part à l'Évangile. » Chapitre 2, il dit « Vous avez pris part à ma détresse. » Et puis, il dit « Vous avez pris part dans le fait de donner et recevoir avec moi. » Donc, l'expression ici indique une participation, une communion, le fait d'avoir quelque chose en commun. Et c'est ce qu'on trouve dans l'Église primitive lorsqu'il est dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. » C'est-à-dire le fait d'avoir une même âme, même esprit, conduit à une communion, un partage des biens que l'on a. Ainsi, Paul dit qu'en s'offrant à En offrant ce don, plutôt, les Philippiens ont communiqué, ils ont participé à sa détresse ou à son affliction ou à sa pression. Donc lui, ils lui font part de leur bien et pour eux, c'est comme prendre part à sa détresse. Sa détresse devient la leur parce qu'ils ont participé financièrement à sa situation. Et c'est cette même pensée qui a poussé les Macédoniens, qu'on a lu en 2 Corinthiens chapitre 8, à prendre part à la collecte. Ce n'est pas simplement, il dit, ils ont demandé avec instance de prendre part, c'est le même mot encore, de participer, d'avoir une communion. Ce n'est pas une communion avec la collecte qu'ils veulent. Ils veulent une communion avec les chrétiens de Jérusalem qui sont dans la souffrance au moyen de la collecte. Vous voyez cela? C'est-à-dire que le fait de participer, de donner, c'est pas simplement j'ai participé à la collecte, non. C'est que je prends part, je porte le fardeau des chrétiens de Jérusalem en participant. Moi-même, en me coupant d'une partie de ce que j'ai, en souffrant un peu ce que j'ai, en me sacrifiant un peu, je participe aussi à leur souffrance. De cette manière-là. C'est ce qu'ils disent. Ils ont demandé avec instance qu'on les laisse prendre part à la collecte, même s'ils étaient pauvres. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc c'est ce que Paul dit ici quand il dit qu'ils ont pris part, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. La générosité est un moyen d'avoir communion dans l'Évangile avec ceux qui travaillent aussi dans l'Évangile. Celui qui pourvoit aux besoins du missionnaire, il est participant avec le missionnaire dans la mission laquelle le Seigneur l'a employé. C'est ce que l'apôtre Jean dit à Gaius. Il dit à Gaius dans 3 Jean, il dit « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Le fait de pourvoir à leurs besoins, il dit, tu feras bien de pourvoir, mais d'une manière digne. Pas de mettre la main dans la poche et puis dire, ah, je n'ai que ça. Non, tu réfléchis, tu prends en compte ce que la dépense. Et tu dois pourvoir d'une manière digne de l'Évangile. Hein. Il dit, d'une manière digne de Dieu, il dit, tu donnes, et il dit, c'est une manière par laquelle on est collaborateur, on est ouvrier avec eux dans, pour la vérité, pour la propagation de l'Évangile. Donc en envoyant ce don, l'Église de Philippe prend part à la détresse de Paul, parce que ce don vient d'un cœur qui est compatissant. Le don, c'est l'expression de leurs sentiments à son égard. Le don, c'est parce qu'ils prennent en cause, en compte sa situation. Le don, c'est la coupe qu'ils ont fait dans leurs petits moyens pour pouvoir participer à la propagation de l'Évangile en soutenant le prédicateur de l'Évangile. Donc la générosité est un moyen aussi de communion que Dieu nous donne. Ce n'est pas simplement le fait de vider sa poche, c'est un moyen de communion dans l'œuvre de Dieu, avec ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Troisièmement, la générosité produit des fruits abondants pour l'Église. Ce que l'apôtre Paul souligne, regardez au verset 17, il dit « Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Alors il dit un certain nombre de choses auparavant, hein, il dit ici, il parle du fait qu'il, et on le rappelle du fait qu'ils ont été fidèles en lui envoyant des dons, mais il dit attention, je ne dis pas ça parce que je cherche encore des dons supplémentaires. Il dit, je ne cherche pas les dons. Ce que je cherche, c'est le fruit qui abonde pour vous. Pour moi, je sais vivre dans la disette, je sais vivre avec, je sais vivre sans. Donc c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est ce qui est produit pour vous lorsque vous donnez. Donc il dit ici que la générosité, en fait, produit des fruits abondants. C'est comme si Paul disait que le soutien financier est comme un investissement qui rapporte des intérêts ici. Donc, il est important que l'Église considère cela. On pense toujours que soutenir, c'est s'appauvrir d'une certaine manière, hein, mais l'Écriture soutient que soutenir, donner, c'est s'enrichir, hein, d'une manière particulière, au moins d'une manière spirituelle. Mais partout ailleurs dans l'Écriture, il est écrit, il est soutenu cette vérité. Je vous lis quelques versets. Il dit, Proverbe 11, 24, 25, dit, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Donc ici, il parle même d'une bénédiction matérielle, hein, que l'on peut aussi avoir. Alors bien sûr, la Bible ne dit pas, tu donnes 100 euros, tu en auras 200. D'accord ? Jamais elle ne promet de telles choses. Mais elle promet qu'il y aura des fruits qui abondent pour notre compte. Sinon, maintenant, eh bien, quand on sera dans le royaume de Dieu, dans le contexte du don financier, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, nous avons lu ce verset ce matin, en tout cas, le verset 7. Il dit, sachez-le, 2 Corinthiens 9, verset 6, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il n'est pas en train de parler d'agriculture ici. Oui, il prend une image agricole, mais en plein dans un texte où il parle de dons financiers. 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9, c'est l'organisation de la collecte pour l'église de Jérusalem. Okay? Donc il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Toutes sortes de fruits, à la fois matériels et spirituels. On trouve, le Seigneur prend soin de ses enfants. Il disait ceci aux anciens de l'église d'Éphèse, lorsqu'il remonte vers Jérusalem. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi, il parlait qu'il a travaillé de ses mains, qu'il a soutenu ceux qui étaient avec lui. C'est en travaillant ainsi qu'il vous faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de joie, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, plus de joie des fois. Donc, il y a un fruit qui est une joie qui est apportée dans le cœur lorsque l'on participe généreusement à l'œuvre de Dieu. Ce sont des fruits qui ne peuvent être produits que par l'Esprit de Dieu dans ceux qui participent vraiment à l'œuvre de Dieu. Il y a des choses, il dit ici, hein, je cherche le fruit qui abonde. Il y a un fruit particulier qui abonde de cette générosité. Puis quatrièmement, je voudrais souligner ici que la générosité est un acte d'adoration. L'Église qui donne adore Dieu. Il dit verset 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. » Il dit, « J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. » Il ajoute, « Comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » On est là purement dans le langage, on pourrait dire lévitique de l'Ancien Testament, des sacrifices de bonne odeur offerts à Dieu. On est dans le domaine de l'adoration ici. Et il dit donc que donner généreusement, c'est un acte d'adoration. Quand nous donnons le dimanche matin le culte, ce n'est pas parce que, bon, voilà, ça fait partie, il faut bien qu'on vive, etc. Non, ça fait partie de l'adoration, de même que la prédication fait partie de l'adoration, les prières, les chants, tout ce que nous avons fait partie de l'adoration. Donner fait aussi partie de l'adoration. En donnant à Paul, les Philippiens ont donné à Dieu. Peut-être qu'ils ne s'en rendaient pas compte, mais c'est ce qu'ils ont fait ici. Et l'apôtre Paul dit voilà, que c'est un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Le sacrifice à Dieu, c'est un sacrifice de soi premièrement. Et c'est parce qu'ils se sont, quand il parlait des Philippiens dans 2 Corinthiens, il dit ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis à nous. On a lu le verset tout à l'heure, 2 Corinthiens 8, verset 5, je vous le relis. Il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, matériellement, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc Paul met en évidence que le don d'argent de la part des Macédoniens est subordonné à un premier don, c'est le don d'eux-mêmes à Dieu. On a du mal à donner quand on ne sait pas donner vraiment à Dieu. Et la Bible parle du sacrifice que le croyant doit faire. Hein, dans Romains chapitre 12, rappelez-vous, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi ? Vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, encore on trouve le mot, à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ça c'est Romains chapitre 12, verset 1. Et puis Romains chapitre 12, verset 8, il dit « Que celui qui donne le fasse avec libéralité. » C'est la conséquence du sacrifice de son corps comme un sacrifice vivant. Il y a tout un tas de choses qui en découlent. Mais il dit, voilà, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et que celui qui donne le fasse avec générosité, avec libéralité. Parce que c'est ce sacrifice-là qui est agréable à Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Romains, aux Hébreux, dit la même chose. Il souligne le fait d'offrir à Dieu des sacrifices, de louer Dieu. Et pour nous, louer Dieu, c'est chanter, souvent. Hein? C'est jouer de l'instrument, chanter, dire Alléluia, etc., prier. Mais l'Épître aux Hébreux dit ceci. Il dit, par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça, nous sommes d'accord avec ça. Il dit, il ajoute la phrase d'après, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors, il n'a pas dit, n'oubliez pas d'offrir des sacrifices de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça, on a tendance à le faire, probablement, facilement. Mais il dit, mais n'oubliez pas une chose que vous risquez d'oublier. Quand la Bible dit n'oubliez pas, c'est parce qu'on oublie naturellement. Hein? Quand il nous donne un commandement, c'est parce qu'on a tendance à faire le contraire du commandement. Et donc quand il dit n'oubliez pas, ça veut dire qu'on oublie souvent cet aspect du sacrifice que l'on doit rendre à Dieu. N'oubliez pas, dit-il, la bienfaisance et la libéralité, la générosité, le don. Parce que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et un commentateur a dit ceci, il a dit quelle portée peut avoir un geste généreux apparemment localisé, comme celle qu'a fait l'église de Philippe? Il dit, si on pense, par exemple, les Philippiens pourraient penser ainsi, il dit, nous pensions subvenir aux besoins d'un indigent, et en réalité, nous adressions au roi lui-même. Nous imaginions que ce parfum se propagerait seulement autour de nous. En fait, il traverse tout l'univers. Nous pensions avoir affaire à Paul et nous nous rendons compte que nous exerçons un ministère en faveur de son sauveur et Seigneur. C'est ce que Jésus dit. Hein. Celui qui donnera un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à moi qu'il l'aura fait. Donc tout ce que l'on fait comme don pour soutenir l'œuvre de Dieu, en soutenant les ministères, les ministres, etc., ou l'Église, eh bien, c'est une offrande à Dieu. Et Dieu dit que c'est une offrande qui lui est agréable. Alors, je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui, mais je vais juste quand même donner quelques mots d'application, de conclusion pour nous. Premièrement, soutenir l'œuvre de Dieu par nos dons est la responsabilité de tous les croyants d'une assemblée. Donner est un commandement que l'on voit ici. C'est un commandement. L'apôtre Paul dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 16, verset 2, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part ce qu'il pourra. Jésus, dans le sermon sur la montagne, il parle du fait de donner. Il dit, lorsque vous donnez, d'accord ? Sous-entend que c'est ça que l'on doit faire. Donner est un commandement, ça n'est pas une option. Paul dit que chacun de vous, sans exception, chaque croyant, que chacun donne, on l'a lu tout à l'heure, 2 Corinthiens 6, verset 9, verset 7, c'était au mur, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Mais que chacun, pas ceux qui veulent, chacun. Donc on peut voir cela, il y avait une première collecte qui avait été organisée pour l'église à cause d'une famine et pour l'église de Jérusalem aussi, en Actes chapitre 11. Et la parole nous montre que les croyants, les disciples avaient résolu, Actes 11 verset 29, d'envoyer chacun selon ses moyens. C'est intéressant de voir ça. Il n'a pas dit, ils ont résolu d'envoyer selon leurs moyens. Il dit, ils ont résolu d'envoyer chacun selon ses moyens. Et donc, donner la responsabilité de chacun d'entre nous, ici. Et il est important de souligner cela. Lorsque l'Église vote un budget, tous les membres sont engagés par le budget. Tous, sans exception. C'est notre responsabilité. Les riches, comme les pauvres, sont concernés. Donner, ce n'est pas une question de moyens, mais une question de disposition de cœur, de résolution et d'obéissance à la parole de Dieu. Ça n'est jamais une question de moyens. C'est ce que l'on voit avec l'église de Philippe. Dans leur pauvreté, ils ont été généreux. Alors, c'est vrai que on peut avoir tendance à dire, oui, mais moi, je ne peux pas donner, je n'ai pas beaucoup, je ne travaille pas beaucoup, je ne touche pas beaucoup. Ça n'a rien à voir. Ce que Dieu, la parole nous dit, nous sommes obligés de nous plier à ce que la parole de Dieu nous dit. Oui, on pourrait, compassion humaine, dire oui, je comprends. Oui, on peut comprendre beaucoup de choses. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce à quoi nous devons nous plier. Il dit que la générosité n'est pas une question de moyens, puisque l'église de Philippe a pu participer. Chacun, il a participé à proportion de ses moyens. Et ça, c'est une chose que nous devons apprendre à considérer. 2 Corinthiens 8, verset 12 dit ceci, hein, et c'est un verset qui est important à noter, surtout quand on dit « je n'ai pas, je ne peux pas ». Eh bien, regardez ce que 2 Corinthiens 8, verset 12 dit. L'apôtre Paul dit « la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. » C'est important de souligner cela. Je le lis dans une autre traduction, dans la version Darby, il dit « Car si la promptitude à donner existe, elle est agréable selon ce qu'on a, non selon ce qu'on n'a pas. D'accord ? Et ce qui est important ici, c'est la promptitude à donner qui est agréable à Dieu, avec ce que l'on a. Quand avec ce que l'on a, on est prompt à donner, cela plaît à Dieu. Mais quand avec ce que l'on a, on dit, « Oh, mais si j'avais ça, j'aurais pu donner. » Il dit non, on est dans une attitude qui n'est pas du tout agréable à Dieu. « Ah, si j'avais plus, je pourrais donner. Mais comme je n'ai pas beaucoup, je ne peux pas donner. » Mais si on ne donne pas avec ce que l'on a, pourquoi pense-t-on que l'on va donner avec ce qu'on n'a pas ? Même si on parvient à l'avoir. Notre capacité à donner se mesure déjà dans le fait de donner avec ce que l'on a. On ne peut pas savoir ce qu'on va faire avec ce qu'on n'a pas si on n'a pas l'habitude de le faire avec ce que l'on a. Et Jésus enseigne exactement cette vérité quand il dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres l'est aussi dans les grandes. » Donc c'est avec c'est ce que l'on fait avec ce que l'on a qui montre ce que l'on fera avec ce que l'on n'a pas si un jour on arrive à l'avoir. Okay, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que l'on fait maintenant avec le peu que l'on a qui détermine si plus tard je ferai quelque chose avec peut-être le plus que j'aurai. Et l'évangile nous pousse à agir toujours, non pas avec ce que nous n'avons pas, mais avec ce que nous avons. Parce que ce que nous avons vient de Dieu et appartient aussi à Dieu. Que ce soit beaucoup ou que ce soit peu. Et donc, il est important que nous intégrions cela et que nos parents, par exemple, aussi, nous devons apprendre même à nos enfants, très jeunes, à donner avec le peu qu'ils ont. Parce que c'est une culture, une pensée qu'il faut aussi développer. Le fait de donner, comme on fait de la petite classe, je donne car j'aime Jésus. Je me souviens souvent d'entendre ces petits chants avec la classe des petits. Tout petit, on apprend à donner. Et ça, c'est important. Deuxième vérité que je voudrais souligner, soutenir l'œuvre de Dieu par nos dons doit être un effort généreux. Quelle est la plus grande question? On ne va pas rester longtemps là-dessus, on reviendra une autre fois, mais quelle est la plus grande question que l'on pose souvent en matière d'offrande? Combien? Combien il faut donner? Dis-moi combien il faut que je donne. Est-ce que le chrétien doit donner la dîme ou pas? Ce n'est pas une loi de l'Ancien Testament, etc. Donc on pourra revenir sur cela une autre fois. Paul ne donne pas de montant dans ce qu'il dit, ce que les Philippiens ont fait. Et même lorsqu'il donne des commandements par ailleurs, comme dans 1 Corinthiens 16 ou 2 Corinthiens, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donc mettre à part ce qu'il pourra selon sa prospérité. Mettre à part chez lui, d'autres textes disent, accumulant selon ce qu'il aura prospéré. Donc c'est ainsi qu'il faut faire. La question n'est pas donc de considérer premièrement combien il faut donner, mais combien Dieu m'a béni et à partir de cela, qu'est-ce que je dois faire ? Doit avoir un don qui est proportionnel au bien que Dieu m'a fait. Il dit selon sa prospérité. Il faut porter un regard attentif sur la prospérité et ne pas tomber dans l'erreur de l'homme riche. Vous vous rappelez de Luc chapitre 12 qui a vu ses biens s'augmenter. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a agrandi ses grenier et puis il a entassé, il dit « Mon âme réjouit-toi parce que j'ai des biens en réserve pour de nombreuses années. » Et donc ici, l'augmentation des revenus est quelque chose que l'on doit considérer. Qui c'est qui a permis que cela augmente ? C'est Dieu. Et s'il permet que cela augmente, est-ce que c'est pour que mon confort augmente ? Ou est-ce que c'est pour que je sois plus généreux dans l'œuvre de Dieu ? C'est une question qui est très importante que nous devons méditer. On reviendra là-dessus une prochaine fois en parlant de la générosité, du contentement, etc. Mais il est important que nous, dès maintenant, nous commencions à réfléchir à ça. Il ne s'agit pas de donner simplement ce que l'on pourra. L'apôtre Paul dit, bien sûr, il dit qu'il mette à part chez lui ce qu'il pourra, mais il ajoute selon sa prospérité. Donc, ce n'est pas simplement donner ce qu'on pourra, mais c'est ce qu'il pourra selon sa prospérité. C'est la prospérité qui fixe, le fait que de ce que Dieu nous a donné. Il ne met pas de montant, mais quand on est sous la grâce de Dieu et que l'on considère qu'on est sous la grâce de Dieu, eh bien, cela nous donne une idée de comment nous devons donner. L'apôtre Paul, en parlant dans ce contexte, aux 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, je crois, en parlant dans ce contexte du don, il dit à l'Église ceci. Il dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Ce verset se trouve en plein cœur d'un texte sur l'organisation d'une collecte. Ce n'est pas un exposé doctrinal qu'il est en train de faire ici. Il incite les Corinthiens à participer en disant, « Vous connaissez la grâce de Dieu qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. » Il dit, « Voilà quelle a été la générosité de Jésus-Christ à votre égard. Quelle doit être la vôtre à son égard ?» C'est ça que c'est la question qu'il pose et que je vous laisse ici en suspens. Ici. Et puis, dernièrement, je voudrais dire que soutenir l'œuvre de Dieu par nos dons doit être un effort régulier. Doit être un effort régulier. L'apôtre Paul montre que l'église de Philippe, dès le commencement, elle a soutenu. Et jusqu'au moment où il est en prison, il a encore reçu des dons de cette église. C'est une église qui s'est engagée et qui a été fidèle et régulière dans la manière de donner. En parlant aux Corinthiens, l'apôtre Paul, je reprends encore ce texte, dit « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettra à part ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. » Et donc Paul dit ici que la contribution de la collecte doit être régulière. Le premier jour de la semaine, tous les premiers jours de la semaine, il devait mettre de côté, mettre ces choses, les collecter de manière à ce qu'il puisse les récolter au moment venu. Donc les chrétiens sont exhortés à être réguliers, à être systématiques dans leur manière de donner. On trouve toujours qu'il y a quelque chose de beau, n'est-ce pas, dans la spontanéité. Hein? Je suis spontané, moi, c'est comme le cœur m'en dit. Voilà, ça y est, j'ai une impulsion, j'ai donné par impulsion. La Bible ne nous demande pas de faire les choses par impulsion. Elle nous demande de donner de manière systématique, régulière. Car ce qui se passe quand on est dans le systématisme et la régularité, c'est qu'il y a une œuvre qui se produit dans le cœur. Un caractère qui se développe. Et Dieu, l'apôtre Paul le dit quand il dit, ce n'est pas que je cherche les dons pour moi, mais je cherche le fruit qui abonde pour vous. Ça veut dire qu'il y a un bénéfice spirituel, j'allais dire caractériel, qui se développe pour celui qui prend l'habitude de donner régulièrement. On peut être spontané quand on lit sa Bible, on peut dire, là, je lis la Bible spontanément, j'ai envie de lire, j'ouvre ma Bible, je lis. J'ai envie de prier aujourd'hui, ça m'a pris, j'avais envie de prier, je prie. Bon, mais ce n'est pas comme ça qu'on vit la vie chrétienne, n'est-ce pas? On est régulier dans la lecture de la Bible et on est régulier et systématique dans la prière. Et c'est comme cela que l'on progresse dans le systématisme et la régularité. Et dans le domaine financier aussi, dans les dons, la parole veut nous enseigner qu'il y a un progrès à faire en étant régulier et systématique dans ce que nous donnons. Et donc, il est important de considérer cela. Je termine avec un que je vous avais déjà lu il y a quelque temps quand on avait étudié l'Épître aux Corinthiens, mais un texte de Georges Müller qui a fondé un orphelinat en Angleterre au XIXe siècle et il a financé uniquement cet orphelinat par la prière. Il faisait connaître ses besoins à Dieu et Dieu mettait sur le cœur de telle ou telle personne de faire un don. Mais Georges Müller n'a pas reçu que des dons. Il a lui-même fait énormément pour financer des missionnaires à l'étranger. Il priait Dieu pour que Dieu envoie pour l'orphelinat, mais lui-même, il faisait beaucoup de dons à l'étranger. Et il comptait sur le Seigneur. Et voilà ce qu'il enseigne sur le principe de donner et recevoir. Il dit, j'ai pendant 50 ans agi par la grâce de Dieu selon le principe chrétien de donner selon les Écritures. Et je peux vous dire combien d'abondantes bénédictions spirituelles j'ai reçues dans mon âme en agissant ainsi, recherchant
à être celui qui donne avec joie, selon qu'il a plu à Dieu de me faire prospérer. J'ai commencé à donner quand j'avais comparativement très très peu à dépenser. Mais selon ce que je donnais, Dieu a accru ma capacité à donner de plus en plus, jusqu'à ce qu'au final, Dieu, selon la richesse de sa grâce, daigne utiliser un pauvre ver de terre sans mérite tel que moi, et avec ses encouragements, j'ai pu dépenser année après année de larges sommes d'argent. C'est là le fruit qui abonde, on voit un petit peu, je pense qu'il y a cette idée-là. Beaucoup de saints bien-aimés se privent eux-mêmes de merveilleuses bénédictions spirituelles en ne donnant pas selon la fonction qui leur a été donnée en tant qu'administrateurs. Ils agissent comme si tout leur était propre, comme si tout leur appartenait, comme s'ils étaient déjà en possession de l'héritage saint et incorruptible. Ils oublient que tout ce qui leur appartient provient du fait qu'ils ont été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ et que tout ce qu'ils possèdent, leur force physique, leur temps, leur talent, leur business, leur profession, leurs yeux, leurs mains, leurs pieds, tout appartient au Seigneur, car il les a rachetés par son sang précieux. Pour cette raison, puis-je implorer affectueusement en prière mes bien-aimés frères chrétiens de prendre ceci à cœur et de considérer que jusqu'ici, ils se sont privés d'un très grand nombre de bénédictions spirituelles, car ils n'ont pas suivi les principes de donner systématiquement. Ils n'ont pas donné en retour pour la prospérité que Dieu leur donnait, selon son plan. Je ne parle pas simplement de juste donner selon l'impulsion, selon le fait qu'il en a été inspiré par un sermon charitable ou missionnaire, mais de donner systématiquement d'une façon habituelle, selon ce principe tel que Dieu le leur permet. S'il leur donne $1, ils devraient en donner en proportion. S'ils ont un héritage de $1,000, ils devraient donner en conséquence. Et s'ils leur confient $10,000, ou quelle que soit la somme, ils devraient donner en conséquence. Oh, mes chers frères, je crois que si on réalisait les bénédictions, nous donnerions ainsi selon le principe, et nous donnerions 100 fois plus que maintenant. Prions. Seigneur, nous te demandons que ta parole pénètre nos cœurs. Et tu sais combien, dans ce domaine, nous pouvons avoir le cœur étroit. Ta parole le dit si bien. Mais nous te prions que tu nous donnes un cœur large. Que tu nous donnes de considérer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Et que tu nous donnes d'obéir à ta parole. Oui, Seigneur, nous n'avons peut-être pas été comme nous aurions dû être jusqu'à présent, mais nous te demandons pardon et nous te prions que, dans cette nouvelle année qui commence, tu nous donnes de prendre de sérieux engagements dans ce domaine, de nous investir dans ton œuvre, Seigneur, de regarder moins à nous et plus aux autres, moins à nous et plus aux besoins de l'Évangile, Seigneur, que nous soyons comme nous avons vu dans cette église, pour cette église de Philippe, une église généreuse, continuellement généreuse. Je te prie que tu œuvres dans le cœur de chacun de nous par ton esprit. Et Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont là, qui ne te connaissent pas. Nous nous rappelons que ta parole dit que ces Philippiens se sont d'abord donnés à toi en premier. Et nous te prions que tu agisses dans leur cœur. Le premier don est celui qui consiste à se livrer entre tes mains et à s'abandonner complètement dans la repentance entre tes mains. Que tu agisses, que tu attires les cœurs à toi pour la gloire de ton nom. Amen.